réveiller. Je viens, et tant pis si l'on se déchire. Je viens, je veux le meilleur et le pire. Je viens demain car je veux te rejoindre. Je viens, je pars dès que le jour va poindre. Ce qu'il faut vivre, s'il faut le vivre, je viens pour la vivre avec toi.
Eh bien, bonjour et bienvenue sur Radio Libertaire pour cette nouvelle émission Livre en lutte. Une émission sous le signe de la poésie et de la poésie féminine. Alors pour ça, je me suis fait aider par Héloïse. Bonjour Héloïse.
Bonjour.
Donc Héloïse qui a fait de la radio sur RFPP, qui est maintenant sur Cause Commune.
Absolument, l'émission Tata Poum.
Avant d'aller en boum, écoute Tata Poum. Donc des musiques pincoïdes.
Bruyantes.
Brillante. Donc tu fais aussi partie d'un collectif punk Social Crash.
Absolument.
Il s'agit d'impliquer le milieu punk, on va dire. C'est toujours les recettes au profit d'une cause ou de grévistes. Généralement, c'est comme ça en fait.
Exactement, c'est du punk un peu politisé.
Eh bien, je vais te laisser lire l'introduction et démarrer cette émission.
Eh bien, l'émission d'aujourd'hui se propose d'explorer l'œuvre de quatre artistes nés au cours des années 1920 et ont subitement mis fin à leur jour entre 1963 et 1974. Anne Sexton et Sylvia Plath, poétesse américaine, Ingeborg Bachmann, poétesse et romancière autrichienne, et Diane Arbus, photographe américaine. Quatre amantes, mères pour la plupart, dont l'écriture ou les photographies évoquent pêle-mêle la condition des femmes, leur relation aux hommes, la maladie mentale, mais aussi la marge et l'effrayante normalité s'agissant des clichés de Diane Arbus. Quatre artistes, dont l'œuvre est également hantée par leur internement psychiatrique, et qui ont fait de l'expérience intime, et notamment de leur souffrance psychique, une matière poétique et littéraire dans la lignée du courant de la littérature confessionnelle. Quatre artistes qui, à travers leurs mots ou leurs images, incarnent enfin les désirs empêchés des femmes, notamment artistes, dans la société des années 50, et le souhait de montrer ceux que la société a appris à cacher et à qui elle tourne le dos.
Alors on va commencer par Anne Sexton parce que son parcours, son profil ressemble beaucoup à celui de chacune des femmes que l'on va évoquer. Donc née en 28 et qui a mis fin à ses jours en 74 à 45 ans et dont la première traduction du recueil de poèmes « Tu vis ou tu meurs » a été publiée récemment en français en 2022. On a deux gros motifs, effectivement la dépression et la condition des femmes. Donc une première dépression nerveuse en 54, un deuxième épisode dépressif en 55. Elle rencontre le docteur Martin Horn dans un hôpital psychiatrique qui l'encourage à écrire de la poésie, ce qu'elle fait en s'inscrivant à un premier atelier animé par John Holmes. Mais elle a en outre fréquenté un autre atelier de poésie en même temps que la poétesse Sylvia Plath. Donc animé par le poète Robert Lowell, qui lui aussi est un confessionnaliste. Alors je ne sais pas si Anne et Sylvia se sont si bien connues, même si Anne Sexton a fait un poème sur la mort de Sylvia Plath. On les a mises donc dans la même tendance dite du confessionnalisme, mais ça c'est une appellation, comme d'habitude, créée par les critiques, apparue sur le tard dans les années 70, et qui donc n'était pas revendiquée par ces auteurs des années 50 ou 60.
Son premier recueil s'appelle « Retour partiel d'asile ». Elle avait dit dans un entretien « Au début de ma dépression, lorsque je suis devenue une déplacée, je pensais être la seule dans mon cas. Je me suis rendu compte qu'il n'en était rien, qu'il y avait d'autres personnes comme moi. Cela m'a rassurée. Je me suis sentie davantage dans la réalité, plus saine. Je me suis dit « C'est mon monde ». Un trop rejeté ou trouvant refuge à l'asile, dans une communauté de folles ou de femmes inadaptées aux attentes de la société.
Alors, je reviens sur le confessionnalisme. Donc, un courant porté sur l'introspection et qui reprend souvent le thème de la folie. On peut préciser qu'Anne Sexton est née et a vécu dans le Massachusetts, en Nouvelle-Angleterre. Et c'est une région qui avait été colonisée par les puritains, qui est le creuset du puritanisme nord-américain, qui lui-même encourage à l'introspection, ça c'est leur côté protestant. Et disons aussi qu'elle n'avait lu aucun livre avant d'être internée. Alors, ces épisodes dépressifs sont diagnostiqués comme des dépressions postpartum. Et là, on peut enchaîner avec un deuxième thème, sa condition de femme. Donc, elle a évoqué l'avortement dans ses poèmes, les règles, la masturbation féminine, l'adultère. Alors qu'on situe juste un peu après la Deuxième Guerre mondiale, donc au cours de laquelle les femmes avaient pu reprendre les emplois des hommes partis à la guerre, et qu'on a renvoyé gentiment chez elles après le conflit, à une époque où on leur proposait de se réaliser dans une carrière d'épouse et de mère de famille. On a pu dire que c'était alors le grand retour du patriarcat après une première phase du féminisme.
Et Anne Sexton a pu écrire « Jusqu'à l'âge de 28 ans, mon être profond était comme enseveli, et je ne savais pas que je ne pouvais faire autre chose que de la sauce blanche et mettre des couches à des bébés. Je ne pensais pas avoir les moindres ressources créatives. J'étais victime du rêve américain, du rêve petit bourgeois de la classe moyenne. Tout ce que je voulais, c'était une petite parcelle de vie, être mariée, avoir des enfants. Je pensais que mes cauchemars, mes visions, mes démons allaient tous disparaître s'il y avait assez d'amour pour les chasser. Je faisais tout mon possible pour mener une existence normale, car c'est ainsi que j'avais été élevée. Et c'était ce que mon mari attendait de moi. Mais il ne suffit pas de simples petites barrières de piquets blancs pour repousser les cauchemars. La surface s'est lézardée lorsque j'ai eu à peu près 28 ans. J'ai fait une dépression et une première tentative de suicide. » Elle a aussi évoqué ses deux filles. « Vous m'avez toutes deux monopolisées sans vraiment laisser d'adresse, à part deux cartes postales niaises que vous avez daigné envoyer à la maison. »
Alors on l'a séparé tes enfants, même après ses hospitalisations. Et c'est les beaux-parents notamment qui vont élever sa fille cadette. Donc elle en vient à divorcer.
Je vais lire des extraits du recueil « Tu vis ou tu meurs » qui a obtenu le prix Pulitzer de la poésie en 1967. Et il faut préciser que le mot « ma fin » est écrit « F-A-I-M ». Tout le monde m'a quitté, sauf ma muse, cette bonne infirmière. Elle reste dans ma main, sourit blanche et douce. Mais toi, mon médecin, mon enthousiaste, tu valais mieux que le Christ. Tu m'as promis un autre monde pour me dire qui j'étais. Éveillée, je me remémorais des rêves. Les rêves entraient dans le ring comme des lutteurs remplaçants. Chacun d'eux un mauvais pari qui avait des chances de gagner car il n'y avait pas d'autre. Je les fixais, me concentrant sur l'abîme, comme quelqu'un qui regarde une carrière des kilomètres et des kilomètres plus bas, mes mains tendues, oscillantes comme des crochets pour extirer des rêves de leur cage. Oh ma fin, ma fin. Je suis revenue, mais le désordre n'est plus ce qu'il était. J'en ai perdu le fil, l'innocence. Ce patient, sous son chapeau en forme de tuyau de pelle, avec ses blagues féroces, son sourire fou, même lui paraît petit et pâle. Je suis revenue, je me suis réinternée, fixée au mur comme une ventouse de salle de bain, détenue comme une prisonnière, tellement indigente qu'elle est tombée amoureuse de sa prison. Anne Sexton, Mercy Street, 45 Mercy Street, qui n'est pas dans le recueil « Tu vis ou tu meurs ». Peut-être que la terre flotte, je ne sais pas. Peut-être que les étoiles sont de petits bouts de papier découpés par des ciseaux géants, je ne sais pas. Peut-être que la lune est une larme gelée, je ne sais pas. Peut-être que Dieu est une voix grave entendue par des sourds, je ne sais pas.
Alors on va écouter une chanson de Peter Gabriel qu'il a écrite et dédiée à Anne Sexton et qui s'appelle Mercy Street. Alors le New Musical Express l'avait classée dans les 10 chansons les plus déprimantes, alors que c'est juste une chanson très belle, très onirique. Au refrain, un peu comme une comptine. C'est une femme qui regarde la rue, il voit des immeubles et des voitures qui sont comme des rêves qui ont pris corps. Elle songe elle-même qu'elle va retrouver son père. Et Peter Gabriel lui fait dire aussi, les mots soutiennent comme les os. Donc cette femme cherche Mercy Street et le panneau de cette rue. Les panneaux dont on va reparler tout à l'heure à propos de Cilla Plath.
Thank you. can see are the dreams all made solid, are the dreams made real. All of the buildings, all of the cars were once just a dream in somebody's head. She pictures the broken glass, pictures the steam. She pictures a soul with no leak at the seams. Take the boat out, wait until darkness. Let's take the boat out, wait until darkness comes. Nowhere in the corridors of pale green and grey, nowhere in the suburbs in the cold light of day. There in the midst of it, so alive and alone, words support like bone.
Looking for mercy.
sea.
Donc c'était Mercy Street de Peter Gabriel. Alors il y a plusieurs clips qui existent pour cette chanson. Il y en a un qui est absolument somptueux. C'est une forme d'aquarelle mouvante avec une jeune fille qui lit dans sa chambre, après passe un bateau dans la rue. Bon, c'est vraiment à trouver. La deuxième femme qu'on va évoquer, c'est Ingeborg Bachmann, une poétesse autrichienne née en 26 et décédée en 1973. Avec un premier recueil de poèmes paru en 53 et un dernier en 56, mais elle a toujours continué d'en écrire et d'en publier, ainsi que des romans et des nouvelles. Les circonstances de son décès dans l'incendie de sa maison ont pu être interprétées différemment par ses fans. On sait qu'elle s'est endormie une cigarette à la main, sans doute après avoir pris une forte dose d'antidépresseurs et de neuroleptiques dont elle était devenue dépendante. Donc certains choisissent d'y voir un suicide. C'était dans sa bibliothèque et peut-être à un moment donné où elle n'arrivait plus à écrire. Ingeborg m'a marqué de façon particulière et je vais vous raconter pourquoi. Le jour même où j'ai appris le décès de Anne, à qui on va aussi faire une place dans cette émission, il se trouve que j'avais un métro à prendre à Villejuif, au terminus, donc la rame m'attendait là. J'étais rentré dedans, j'avais un peu avancé, puis je m'étais assis. J'avais ouvert mon sac, sorti mon livre du moment, celui d'Ingeborg Bachmann, qui a pour titre « La 30e année », un recueil de nouvelles, et je l'avais ouvert exactement au début de la nouvelle éponyme.
Un homme va sur ses 30 ans, on n'en continue pas moins à le trouver jeune. Mais sans arriver pourtant à découvrir en lui le changement, lui-même n'en est plus très sûr, à croire qu'il n'a plus le droit de se dire jeune. Et un matin, un jour qu'il s'oubliera, il s'éveille, gisant soudain, incapable de se lever, frappé d'opaques rayons de lumière, sans armes et sans courage pour cette journée neuve. Jusqu'à présent, il se rappelait d'une chose ou l'autre inopinément, ou parce que cela lui faisait plaisir. Le voici désormais douloureusement contraint à se remémorer toutes ces années superficielles et profondes, et toutes ces chutes au cours de ces années. Il jette le filet souvenir, le lance sur lui-même, et c'est lui que, pêcheur et prise, il ramène au seuil du temps, au seuil de l'espace, à la découverte de ce qu'il fut et de ce qu'il devint. Pendant des années, il s'était ainsi livré aux pensées extrêmes et aux plans fabuleux. Fort de sa jeunesse et de sa santé, riche du temps qu'il croyait avoir devant lui, il avait dit oui à tous les travaux d'occasion. Il a trouvé un emploi dans un journal, on lui fit faire des reportages. Il avait toujours été là pour une amitié, un amour, une idée, à laisser et de façon toute provisoire. Il considérait qu'on pouvait congédier l'univers à volonté. Lui-même se sentait congédiable. Jamais il n'avait envisagé que le rideau puisse lever sur sa 30e année, et tel est le cas maintenant. Jamais il n'a pensé que peut-être prononcer le mot décisif, et que le jour viendrait où il devrait montrer ce qu'il savait faire et penser, où il serait forcé d'avouer ce qui lui tient vraiment à cœur. Jamais il ne s'est aperçu que ces mille et une possibilités, il en avait déjà gâché et raté mille, ou alors il était fatal qu'il les eût ratées, parce qu'une seule comptait pour lui. Jamais il n'a réfléchi, rien ne lui a jamais fait peur. Maintenant, il n'aime plus son étoile.
Alors là, sur le coup, je m'étais dit qu'aucun copain garçon ressemblait à ce personnage, et que même un personnage de fiction comme celui-là ne pouvait être qu'une femme. Sur le coup, j'avais eu l'impression que c'était d'avoir croisé la trajectoire dramatique de Anne qui m'avait permis de mieux remonter du texte à l'esprit de l'autrice. Et c'est après que j'ai relu Sylvia Plath, puis que je me suis davantage intéressé aux femmes dont on aura parlé aujourd'hui. Sans Ingeborg Bachmann, je crois que j'aurais pas fait cette émission. Alors, Ingeborg Bachmann a été l'amante de Paul Celan. C'est le poète le plus sombre que je connaisse. Je me souviens d'une phrase, il avait écrit notamment « À qui lèverons-nous encore, boirons-nous encore des rêves, sinon à la roue lente, la mort ?» Lui-même s'est suicidé en se jetant dans la Seine. Donc un personnage très sombre. Et on peut dire qu'ils ont correspondu par poèmes interposés. Mais surtout, on peut se baser sur leur correspondance qui a fait l'objet d'un recueil de ce qu'ils se sont envoyés de 48 à 67. Ça s'appelle « Le temps du cœur », paru au Seuil en 2011. Il y a 245 pages de lettres, puis en plus 200 pages de notes. Alors, j'avais lu les poèmes de Paul Celan il y a bien longtemps, et je savais que je lirais un jour ce livre-là, celui de leur correspondance. Un recueil qui contient aussi bien des lettres qu'elle n'a pas envoyées. Donc, sa relation avec Paul Celan avait commencé à Vienne en 48. Une relation pas du tout équilibrée, dans laquelle ils se seront fait du mal. Par exemple, elle faisait beaucoup de la promotion de ses œuvres et l'inverse ne s'est pas produit. À un moment donné du livre, on apprend même qu'il n'a même pas accusé de réception de ses propositions à elle pour un recueil avec différents poètes.
Elle est censée avoir une bourse après son doctorat pour aller en Amérique ou à Paris, où vivait Paul Celan. Elle choisit donc Paris. Je me disais que s'il t'importait effectivement de vivre dans la ville dans laquelle moi aussi je vis, tu ne m'aurais pas demandé conseil. Au contraire, tu m'écris avec une telle amertume sur la manière bizarre dont je me serais comportée lorsque j'étais dans l'alternative Paris ou l'Amérique. Je suis sans doute la plus simple de nous deux et pourtant c'est à moi de m'expliquer. Parce que pour toi, c'est plus difficile à comprendre. À la mi-août, je compte être sur Paris. Ne me demande pas pourquoi ou à quelle fin, mais sois là pour moi, toute une soirée, ou deux, ou trois. À un moment donné, elle obtient des poèmes de Paul Celan par l'intermédiaire d'un ami. J'ai du mal à supporter qu'il me soit parvenu après un tel détour. J'ai tout misé sur une carte et j'ai perdu. Ce qui va m'arriver ne m'intéresse plus. La relation redémarre, puis échoue en 1957.
Donc on en a terminé avec Ingeborg, et là on va parler de Jan Arbus, que je vais appeler Diane Arbus pour la suite de cette émission. Donc en fait, c'est une photographe décédée en 71. On avait pu voir une expo au Jeu de Paume en 2011, et les journalistes avaient pu écrire à l'époque que son œuvre était souvent choquante, qu'elle avait un talent étrange, mais aussi qu'elle avait révolutionné la photographie. Alors j'avais déjà évoqué des albums photos dans une autre émission. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on dispose d'un livre, Jan Arbus, une chronologie, sortie aussi en 2011, et qui est surtout basée sur son journal et ses très nombreuses lettres, parce qu'il y a un fonds Jan Arbus aux États-Unis. C'est un livre qui est donc surtout écrit, du coup, à la première personne, et on a l'impression de lire une autobiographie. Pour l'anecdote, elle avait elle-même écrit une vraie autobiographie en classe de 6e. Donc encore une femme qui a mis fin à ses jours, encore une créatrice, une grande lectrice. À la lire, on comprend très vite qu'elle est particulièrement pleine d'esprit, très tournée vers l'introspection, et qu'elle a aussi souffert de dépression. Alors pour ce qui est des hommes, elle a été mariée puis divorcée de l'acteur Alan Arbus. C'est un monsieur aux cheveux frisés qu'on voit dans le film MASH. Il a d'ailleurs été plutôt photographe au début de sa vie, et puis il a tourné vers une carrière d'acteur. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils sont restés amis toute leur vie. Il l'a toujours beaucoup soutenu, et pas que financièrement, mais aussi pour les tirages ou beaucoup de décisions à prendre. Donc c'est pas là qu'il y a l'origine d'une souffrance particulière, sauf quand il s'éloigne, qu'il part pour la Californie. Alors Jan Arbus, ce qui est marquant, c'est son goût pour la marge et le bizarre, son travail là-dessus. On a l'impression que c'est peut-être ça aussi qu'elle a payé de sa vie, si on y associe une certaine hypersensibilité. Elle a photographié notamment les forains, les nudistes, des excentriques, des travestis, mais aussi des marginaux dans une mission, des gangs de jeunes, un hôtel condamné à Broadway et ses locataires, un crématorium pour animaux domestiques, et puis deux gros sujets qu'elle a traités pendant des années. Donc elle a fait des photos dans un établissement pour femmes handicapées, avec par exemple des microcéphales ou des personnes trisomiques. Et elle a gardé des relations avec le personnel de cet établissement pendant très longtemps, elle y est retournée plusieurs fois. Je crois que c'était le Vineland Developmental Center dans le New Jersey. Donc elle a déclaré qu'elle voulait photographier celles qu'on ne voit pas, qu'elle ne voulait pas représenter leurs souffrances. Et elle disait aussi qu'elle dégage ces personnes une beauté particulière, comme si on pouvait lire dans leurs yeux les difficultés et l'adversité qu'elles ont vécues depuis leur enfance. Et puis Jan Arbus a aussi sorti un album de photos du Herbert Museum, prises je crois de 58 à 62, plus précisément le Flea Circus du Herbert Museum à New York. Donc Flea Circus, c'est pour cirque ou musée de puces savantes, un dame theater, donc un théâtre à licence. On pouvait y trouver Andrei Radouchev, un lilliputien russe qui imitait Maurice Chevalier, qui pouvait aussi se faire appeler Andrew Potato Chips quand il faisait un autre numéro avec deux autres lilliputiens. On pouvait y trouver aussi Congo, de son vrai nom Ejeka Trembles, un grand black hirsute avec presque toutes ses dents qui incarnait, je cite, le méchant de la jungle. Il y avait aussi une avaleuse de sabre, ou le prince Henri qui driblait une balle avec ses 6 jambes et toutes sortes de freaks.
Dont Joe Allen, un contorsionniste si connu sous le titre de l'homme à l'envers et sur qui Diane Arbus a laissé une note dans l'un de ses petits carnets. Je lis « Joe Allen est une métaphore de la destinée humaine. Il marche, aveugle, vers l'avenir avec un œil sur le passé. » Elle était fascinée par les excentriques qu'elle décrit comme, je cite, quelques-unes des personnes les plus lyriques, magiques, métaphoriques. À propos d'une autre rencontre qu'elle pourra noter dans un autre petit carnet, je cite à nouveau, et cette sorte d'entomologiste à Union Square, capable de faire dériver n'importe quel mot de n'importe quel autre. Il peut aussi bien prétendre que Moïse n'était pas juif ou que Shakespeare n'a pas écrit de pièces de théâtre, ce qui m'épuise à la longue et me laisse sans parole. Mais il est magnifique à regarder, comme un voyant qui a oublié son propre secret ou un anachronisme qui souhaiterait être obsolète. Fier, redoutable et étouffant comme un martyr sans scrupules, le monde est plein de personnages de romans à la recherche de leur histoire.
Donc Diane Arbus avait beaucoup d'esprit, on a compris. Elle a fait ses photos avec un grand travail de recherche, comparable aussi à celui de nos poétesses. Et donc elle a bien fréquenté sur ce Flea Circus jusqu'à sa fermeture en 65. Et on peut bien parler d'obsession de l'étrange, de l'intime, interroger ce qu'est véritablement la norme. Et ce jusqu'à peut-être l'épuisement, jusqu'à ne plus avoir de mots, jusqu'à se mettre en danger et se chercher jusqu'à se perdre. Et avant de terminer sur Diane Arbus, je vais revenir à Anne, tout en restant avec Diane. Donc Anne, la seule de nos héroïnes que j'ai connue, qui a fait très jeune un séjour en HP, qui a mis fin à ses jours elle aussi, qui n'a rien publié. Elle ne s'était pas mise à faire de romans, c'était trop de travail, m'avait-elle dit. Et j'ai trouvé page 45, c'est important, deux notes que j'avais gribouillées sur Anne dans la bio sur le livre de Diane Arbus. Il faut savoir qu'Anne aussi avait sa façon de passer du coq à l'âne. Je lis. Anne nous fascinait parce qu'on lui prêtait de savoir où elle allait et que ça nous échappait toujours. Aussi, Anne était foncièrement incrédule, mais nous croyions qu'elle était revenue de tout, tout en étant prête à s'intéresser à tout. Du coup, on pouvait aussi espérer l'intéresser. Et plus loin, page 56, on lit dans le livre un commentaire sur Diane, d'un de ses amis, qui écrit « Je ne la connaissais pas vraiment, même si c'était une amie que je chérissais depuis des années. Il y avait un vaste domaine de pensée et de sentiments intimes, dans lequel notre espèce de vénération vis-à-vis des rôles, pas seulement le sien, mais aussi ceux des autres... Il y avait un domaine de pensée et de sentiment dans lequel notre amitié n'essayait pas d'entrer, sauf peut-être occasionnellement sous forme de plaisanterie ou autre code elliptique. Elle éprouvait une espèce de vénération vis-à-vis des rôles, pas seulement le sien, mais aussi ceux des autres, définis selon ses intuitions, intuitions subtiles et exigeantes à la fois. Cela faisait de l'amitié avec elle une sorte de danse réglée comme un bal masqué, plus exigeante et difficile et moins spontanée que la vie réelle. » Donc cette autodiscipline rigoureuse, avec la part de réticence qu'elle provoquait, était, je pense, c'est toujours son ami qui le dit, nécessaire pour son travail. Elle s'était fixée pour tâche de photographier des mystères si timides, fugitifs et terribles qu'ils auraient pu, ou qu'elle aurait pu, peut-être effaroucher si les problèmes en jeu avaient été posés ouvertement. Alors la santé de Diane Arbus a décliné, elle était atteinte d'hépatite B, avec tous les épisodes de fatigue ou de fièvre que ça peut comporter, qui allait rythmer son quotidien. Et dans le même temps, elle est devenue de plus en plus psychotimique. Elle prenait des médocs. Et puis ses meilleurs amis ont déménagé. Elle est devenue de plus en plus seule. Et elle a choisi de tout quitter. On fait une nouvelle pause musicale avec le titre Schizophrénia de Armand Altaï, tiré de son album Informulé de 1981.
au fond d'un miroir embué. Tremble une poupée dénudée. Cette poupée, c'est moi. Et je m'appelle schizophrénia. Je l'enroule dedans la laine. Je l'anime et je la promène. Et je la fais pleurer. Elle parle, elle rit. Moi-même. Qu'est-ce que je fais? À quoi je sers? Qui sait comment je vais mourir? Comment cela va venir? Qui ferai-je ma poupée? Où vais-je rester enfermé?
On peut parler maintenant de Sylvia Plath, donc née en 32, décédée en 63, décédée par elle-même. Très grande poétesse américaine qui a surtout vécu en Grande-Bretagne. En 82, Sylvia Plath a été la première poétesse de l'histoire à se voir décerner le prix Pulitzer en poésie, pour le coup à titre posthume. Alors c'était pour l'anthologie de ses œuvres The Collected Poems. Première tentative de suicide en 50, premier soin pour dépression en 53. Elle est admise, ou mise, en HP, où elle subit des électrochocs. Ça, c'est dans son roman La cloche de détresse, à lire absolument. Et les électrochocs, à l'époque, c'est violent. C'est une maltraitance, à mon avis. Donc, elle arrive en Grande-Bretagne en 56, où elle rencontre tout de suite Ted Hughes, un grand poète anglais. Ils ont deux enfants en 60 et 62 avant de se séparer. À la suite de quoi, en 62, Sylvia Plath retourne s'installer à Londres avec ses enfants, Frida et Nicolas. Elle loue un appartement dans une maison qui avait été celle du poète Yeats. Et c'est pendant cette dernière année qu'elle va livrer ses poèmes les plus beaux et les plus douloureux dans ce qui deviendra le recueil Ariel, ou plutôt les différents recueils Ariel, puisque les éditions anglaises, françaises et nord-américaines ne comportent pas les mêmes poèmes ni dans le même ordre, avec là encore pas mal de controverses. Et pour le dire, la traduction française est très libre. Il y a des choses un petit peu choquantes. Donc, alors pour info, son fils Nicolas Hughes, donc, lui-même déprimé, lui-même mis fin à ses jours en 2009. Donc, tu nous lis un petit poème ?
Oui, alors c'est un poème intitulé « Les danses nocturnes » dans le recueil Ariel, édité chez Gallimard. Un sourire est tombé dans l'herbe, irrattrapable. Et tes danses nocturnes, où iront-elles se perdre ? Dans les mathématiques, de telles bombes, des spirales si pures, cela doit voyager. Pour toujours de par le monde, je ne resterai donc pas. Totalement privé de la beauté, il y a ce don de ton petit souffle, l'odeur de l'herbe mouillée dans ton sommeil, les lys, les lys. Leur chair ne tolère aucun contact. Plis glacés d'amour propre, l'arôme, le tigre occupé de sa parure, robe mouchetée, déploiement de pétales brûlants. Tes comètes ont un tel espace à traverser, tant de froid et d'oubli, alors les gestes se défont. Humains et chauds de leur éclat, saignent et s'émiettent à travers les noires amnésies du ciel. Pourquoi me donne-t-on ces lampes, ces planètes qui tombent comme des bénédictions, des flocons, paillettes blanches, alvéoles sur mes yeux, ma bouche, mes cheveux, qui me touchent puis disparaissent à tout jamais, nulle part.
Alors, moi je voulais parler de l'histoire des Blue Plaques. À Londres, sur les bâtiments où ont vécu des célébrités, on appose une plaque commémorative, ovale et bleue, depuis le 19e siècle. Et celle de Siva Plath n'est pas sur sa dernière demeure, et pour cause, on va le redire, c'était celle de l'ancienne maison de Yeats, sur laquelle il y aura donc sa blue plaque à lui. Et les gens, il faut savoir que vraiment elle avait des fans hein, en Angleterre, les gens avaient râlé parce que la blue plaque de Sylvia donc, avait été posée à sa précédente adresse, ce qui montre le rapport assez affectif et passionné que les Anglais peuvent entretenir avec Sylvia Plath. De la même façon, les Anglais ont pris parti dans l'histoire de cette séparation et de ce suicide. Ils ont reproché à son mari de l'avoir trompé, de l'avoir quitté, et d'être pour une part responsable de son suicide. On a pu écrire aussi qu'elle avait été victime d'un mari volage et macho, et c'est ainsi qu'elle a pu devenir une icône féministe. Alors, la vérité, c'est que moi-même, j'étais allé voir la maison dite de Yeats pour voir le quartier, voir ce qu'avait vu Sylvia Plath, pas Yeats, et aussi parce qu'elle en avait parlé dans un de ses textes. Alors, moi, je voudrais parler de Tech News pour éviter de verser trop vite dans un romantisme et un féminisme un peu hors sujet, pour réhabiliter Tech News. Parce que s'il est vrai, que, par exemple, que Sylvia Plath tapait les textes de son compagnon et qu'elle n'a pas pu consacrer tout son temps à ses propres œuvres, aussi par sa condition de mère au foyer, l'histoire est un peu plus compliquée. Donc, Ted Hughes, il faut savoir qu'il a été l'exécuteur testamentaire de l'héritage personnel et littéraire de Sylvia Plath. Et donc, on l'avait suspecté d'avoir détruit le dernier cahier du journal de son épouse, qui aurait révélé des détails sur leur vie commune. Alors, non seulement ça n'a jamais été prouvé, mais ses archives, à lui, ont permis d'établir que c'était que des rumeurs. Alors, de nombreux critiques, souvent féministes, ont aussi accusé Ted Hughes d'avoir exercé un contrôle arbitraire sur la publication pour se protéger lui-même. Là encore, je pense que c'est à revoir parce qu'il lui a fallu surtout transiger avec la mère de Sylvia Plath, Aurelia Plath, puisque c'est elle qui a tenté de faire interdire la publication aux États-Unis des écrits les plus controversés. Et par ailleurs, pour moi, c'est plutôt l'accueil apparemment plutôt mitigé des critiques pour le premier ouvrage de Sylvia Plath, Colossus, qui l'ont souvent dépeint comme un recueil de poésie trop conventionnel et trop dépourvu d'intensité, qui a permis d'introduire l'idée d'une influence de Ted Hughes sur l'œuvre de Sylvia, et toujours dans des débats passionnés. Alors on peut aussi réhabiliter Ted Hughes par deux ouvrages. D'une part par son dernier recueil de poèmes à lui, Birthday Letters, qui sort en 98, quelques mois avant sa mort, où on découvre, surprise, qu'il n'a jamais cessé d'écrire sur leur relation dans ce qui ressemble à un dernier hommage poétique et à une tentative de comprendre le suicide de celle qui avait été sa femme pendant 7 ans. Savoir que le livre a été édité à 500 000 exemplaires, ce qui est un record pour un recueil de poèmes au XXe siècle. Et alors d'autre part, il y a l'intro écrit par leur fille Frida, dans une nouvelle mouture du recueil Ariel, c'est une édition anglaise qui n'a pas été traduite en français. avec des facsimilés de poèmes qui ont été tapés à la machine, fatalement. Et donc, on apprend que sa mère avait détruit deux fois des manuscrits de son père, l'un en le déchirant et l'autre en le brûlant. Donc, c'est une époque où on n'a pas de sauvegarde sur une clé USB. Donc, c'est quand même particulièrement violent. Et Frida raconte que, je cite, « sa mère était d'un tempérament féroce et d'une nature jalouse qui contrastait avec le caractère posé et optimiste de son père. » Toujours est-il qu'on est quand même encore une fois devant l'histoire d'une femme qui a beaucoup souffert par ou dans sa relation avec les hommes ou un seul homme. Même si elle est devenue une icône féministe, plus par son suicide donc que par son œuvre. Tu nous relis un nouveau petit poème ?
Un moment de stase dans l'obscurité, puis l'irréel écoulement bleu des rochers, des horizons. Lionne de Dieu, nous ne faisons plus qu'un, pivot de talon, de genou, le sillon. S'ouvrez-va, frère, de l'arc brun de cette nuque que je ne peux saisir. Yeux nègres, les murs jettent leur obscur hameçon, gorgés de doux sang noir, leur ombre, c'est autre chose, qui m'entraîne fendre l'air, cuisse, chevelure, jaillit de mes talons. Lumineuse, Godiva, je me dépouille, main morte, mortelle austérité. Je deviens l'écume des blés, un miroitement des vagues, le cri de l'enfant, se fond dans le mur. Et je suis la flèche, la rosée suicidaire accordée comme un seul qui se lance et qui fonce sur cet œil, rouge, le chaudron de l'aurore.
Merci Louise, et maintenant il faut qu'on parle de deux livres français. Alors, Lacrymosa, de Régis Geoffrey. Savoir que Anne, la mienne, a été la chérie de Régis Geoffrey, je crois pendant moins d'un an, jusqu'à sa fin. Et Régis Geoffrey en a fait un livre, puis un spectacle, où il était seul sur scène, et dont je me souviens, à vrai dire, assez peu. Le livre est excellent, c'est sous la forme d'une correspondance imaginaire entre ces deux-là, un mélange de cynisme, d'affabulation et de beaucoup d'autodérision. Il l'appelle Charlotte, elle s'appelait Anne Picard-Lavergne. Elle avait vécu à Vitry, avenue Albert Thomas, où elle avait voulu aller repasser avant qu'on aille au musée Macval, où elle n'avait pas payé l'entrée puisqu'elle était journaliste pour le magazine Choc. Autant dire qu'elle ne s'y est pas vraiment réalisée. Elle vivait à Paris, notamment au Globus. Alors le Globus était une énorme colocation. Il faut imaginer une grande salle avec un étage en mezzanine qui comptait à peu près une douzaine de chambres et pas mal de salles de bain. On y faisait des fêtes assez sympathiques. Donc le livre de Geoffrey, c'est le livre d'un homme. D'un homme, lui, à peu près sain d'esprit, je dirais, parce qu'on a quand même envie un peu de le qualifier, tout au long de son œuvre, de graphopathe, voire de graphomane. Donc, sur une femme très douée, très sensible, très fascinante, même pour toutes ses copines, et un peu fragile, sinon malade, comme chacune de nos héroïnes aujourd'hui. Alors, j'avais envoyé deux cartes postales à Anne, sur lesquelles j'avais collé des poèmes imprimés. Donc, je vais vous décrire et vous lire la carte postale, la première. Alors la photo est de Victoria Peak, elle a pour titre Jump. C'est un paysage plutôt montagneux et sauvage, peut-être l'Islande. Une jeune femme, apparemment en costume folklorique, avec une jupe longue et rouge, fait un salto et la photo est prise quand elle est en l'air et la tête en bas. Alors je précise que dans le texte, Zoom est écrit Z-O-M-S et Femme, F-A-M-S. C'était le pays trop plat de Groc-le-Noir. Les cimes étaient liées au bleu, l'herbe avec le vent, les aumes avec leur queue. Et comme dans tous les royaumes, le haut ne regardait jamais le bas en face, depuis toujours. Groc-le-Noir avait une fille, portée sur le rouge, et qui voulait bien patienter, mais à condition que ça change. Craignant, serments et artifices, et maudissant son ombre immobile, elle se demandait pourtant quel secret inventer pour faire avancer l'horizon. Puis elle se souvint des rites magiques de l'ancien temps des femmes. Elle prononça la formule « Pflicht », fit la pirouette « Pflucht », et alors les fiers sommets pendouillèrent, et alors la prairie survola l'horizon, sa propre ombre s'éloignant. Et alors la fille de Groc-le-Noir se rappela du sésame, qui battait là doucement, juste en son milieu. Le deuxième livre que l'on va évoquer, c'est l'œuvre de Daniel Colobert, Donc c'est une écrivaine française, née en 40, décédée en 78. Elle s'était engagée dans un réseau de soutien au FLN, elle avait dû quitter la France en raison de ses activités politiques et s'était réfugiée en Italie. Donc apparemment ça marche dans les deux sens. Elle avait collaboré à Révolution africaine. En mai 68, elle a adhéré à l'Union des écrivains, fondée donc la même année, en soutien aux écrivains pragois. Donc, elle est très impressionnante parce qu'elle apparaît comme, de toutes ses autrices, comme la plus lucide, en tout cas la plus explicite. Ça tient à ce qu'elle a fait un livre en prose. Donc, on part du premier tome de ses œuvres sorti en 2004 chez Paul, qui comprend Meurtre, Dire 1, Dire 2, Il, donc, et Survie. Donc, s'agissant de Meurtre, vous avez compris duquel elle parle. Elle y écrit dans le dernier paragraphe: il faut entendre encore, entendre la voix, les questions, s'encourager, se protéger aussi pour se débattre, pour aller jusqu'au bout, avec cette immense lâcheté de préférer les mots, etc., etc. En fait, Héloïse va nous lire le texte en entier tout à l'heure. Dans les poèmes Dire 1 et Dire 2, elle parle toujours du corps, dans chaque poème. Pour moi, elle raconte un corps souffrant, immobile et siège des conflits intérieurs, des peurs, de l'affolement, de la souffrance. Et aussi, chez elle, un corps lieu de passage des mots et des rumeurs, des voix, des cris, des gémissements, du souffle. Et qui n'ont pour issue que la parole, à moins que ce ne soit qu'une oraison. Et quand les mots, suffisamment répétés, s'éteignent, elle veut ou elle peut quitter son corps.
Je plonge, j'arrache avec mes ongles, là, à l'intérieur. Et pour finir, pour cette fin-là, voilà la question que je n'ai pas encore pu tuer. Ces doutes du matin qui seront là encore après, parce que malgré tout, je n'ai fait qu'essayer. Une tentative si humble que je dois encore me demander l'aumône de cette opération quotidienne pour continuer à vivre. Non, ça n'est pas fini. Il faut entendre encore, entendre la voix, les questions, s'encourager, se protéger, aussi se débattre pour aller jusqu'au bout, avec cette immense lâcheté de préférer les mots, leur édifice, aux petits gestes inconcevables que je n'arrive pas encore à faire. Ne pas glisser pour l'instant, se retenir encore jusqu'au choix, ou plutôt refuser ce choix, cette possibilité. Du mal avec du mal. Je marche en trébuchant et la pièce toute noire ne se désemplit pas encore de l'écho incessant de mes pas, mes pieds incertains qui cherchent dans le sable, lentement, la fin.
Alors on a presque terminé cette émission. Héloïse, tu as des préférences sur une de ces autrices?
Absolument, même s'il est difficile de faire un choix face à tant de pas de talents. Et je dirais que ceux que j'ai préférés, ce sont tout d'abord les poèmes d'Anne Sexton, notamment Retour partiel d'asile, qu'elle a écrit en 1960. Parce que d'une écriture destinée à faire face à une pulsion de mort, elle en fait quelque chose d'introspectif, allant même jusqu'à l'irrévérence lorsqu'elle revisite la condition de la femme. Et puis Diane Arbus, pour sa soif des sous-cultures, des excentriques et des marginaux, et ses photographies que j'affectionne beaucoup, dont le livre Une chronologie nous permet de plonger dans l'intimité à travers une écriture sans prétention littéraire, dépeignant son quotidien affranchi de tout carcan formel.
Et en fait, tu m'avais dit que tu connaissais déjà les photos de Diane Arbus.
Tout à fait, notamment parce que je pense que cela n'est pas étranger à son goût pour les marginaux. Elles ont beaucoup été utilisées dans le milieu punk comme esthétique, notamment pour des flyers ou des affiches de concerts.
Ça, je le savais pas du tout. Moi, j'avais pas repéré ça. Eh bien, on a encore un petit texte à lire. Bah, c'est vrai. J'espère qu'on vous aura passé le goût et l'envie de lire ces personnages, ces femmes que je trouve quand même, moi, qui m'accompagnent en tout cas longtemps, et que je retrouve de temps en temps avec plaisir. Alors, on a une deuxième carte postale à lire. Et puis finalement, je vais plutôt faire lire à Héloïse la réponse de Anne. Alors, comme on va bientôt se quitter, eh bien, je vais dire merci à Héloïse. À bientôt sur les ondes de Cause Commune. Et puis pour les concerts de Social Crash, donc Social Crash, eh bien, il n'y a plus qu'à aller sur Razibus pour trouver des rendez-vous. Donc ma deuxième carte postale, donc je vais vous épargner la lecture. Retenez surtout que la photo était bleue.
Et par ailleurs, il s'agit d'un texte qui a été écrit un petit peu avant un match de foot de la France. Cher Jean-François, j'ai bien reçu tes cartes et j'aime beaucoup la rouge, d'autant qu'il faut se méfier du bleu. À propos, je voulais vous dire qu'il est vain de chercher quelqu'un pour soigner des bleus, et ce pour diverses raisons, à la valeur variable. Le bleu guérit tout seul, contrairement à la plaie, qui, elle, nécessite l'intervention d'une main experte. Le bleu change de couleur avec le temps, il a tendance à virer, au jaune. Du coup, l'omelette est envisageable. Le bleu part enfin bientôt en Allemagne pour taper dans un ballon. Et il vaut mieux qu'il soit en forme. Mais de toute façon, on va perdre en huitième de finale contre les Esquimaux du Nunavut, comme d'habitude.
Merci beaucoup, Héloïse. Et puis, salut, Anne.
chanterons le temps des cerises et guerre au signal et merle moka seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moka. Mais il est bien court, le temps des cerises, où l'on s'en va de pays en rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour, aux robes pareilles, tombant sous la forme, en gouttes de sang. Mais il est bien court, le temps des cerises, pendant de corail, qu'on cueille en rêvant. Vous en serez au temps des cerises. Si vous avez peur des chagrins d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi des peines d'amour. Le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune, en m'étant offerte, ne pourra jamais fermer ma douleur. J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
J'aimerai toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au cœur.
Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les belles. Oui, faites-nous des chansons, nous les fredonnerons. Oui, faites-nous des chansons pour nous donner des ailes. Oui, faites-nous des chansons, nous nous envolerons. Si vous envolez, braves gens, aurez bien de la chance. Vous en aurez pas pour votre argent, pas pour votre espérance. Arrive que le chansonneur ait plus rien dans les poches, plus une miette de bonheur, plus une simple croche. Arrive que le rimailleur, là de se faire entendre ailleurs, reste dedans sa chambre, le cœur en plein décembre, et que le musicaillon bouffe le bois de ses crayons, déserté par les notes, les yeux remplis de flotte. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air. C'est pas moi qui vous vendrai du vent. C'est ça qu'il vous fallait, du troula troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant. Oui, faites-nous des chansons et faites-nous les tendres. Oui, faites-nous des chansons et nous les aimerons. Oui, faites-nous des chansons qui soient douces à entendre. Oui, faites-nous des chansons et nous les rêverons. Si vous voulez rêver, braves gens, ça sera pas facile. Le rêve a pris la clé des champs, il a quitté la ville. Arrive que le chansonneur aimerait bien se taire et planquer son petit malheur sous deux poignées de terre. Arrive que le scribouilleux puisse rien écrire de mieux, que sa chandelle soit morte, frappez pas à sa porte. Arrive que le musicard ait quelques bateaux de retard, que ses soupirs débordent, qu'il ait cassé ses cordes. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troulalaire, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait du troula troulalaire, si c'est ça, fallait le dire avant. Faites-nous des chansons et faites-nous les drôles. Oui, faites-nous des chansons, nous nous épanouirons. Oui, faites-nous des chansons que le rire nous frôle. Oui, faites-nous des chansons, nous les achèterons. Bien si vous rigolez, braves gens, ça sera la surprise. Faudrait pas tricoter longtemps votre matière grise. Arrive que le chansonneur ait pour vous trop d'estime, pour viser plus bas que le cœur, en dessous de la rime. Arrive que le paroleux, plutôt que de se vendre au mieux, préfère encore se taire, le cul posé par terre. Et que le pauvre écosse note, plutôt que de baisser culotte, reste dans sa cuisine à gratter en sourdine. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Si c'est ça qu'il vous fallait du troula troula l'air, si c'est ça, fallait le dire avant. C'est pas moi qui vous vendrai du troula troula l'air, c'est pas moi qui vous vendrai du vent. Il vous fallait du troula, troula l'air. Si c'est ça, fallait le dire avant.
Radio Libertaire 89.4, bonjour à tous. Eh ben, nous sommes dans l'émission Faites-nous des chansons du 4 septembre. C'est donc Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu, sans uniforme. Qu'est-ce que je vois d'écrit encore? Sans gourou. Sans grand chef, sans petit chef, sans prophète, sans influenceuse, sans publicité.
Mais avec Claude.
Et alors avec alors là ce soir, ce matin, ce jour, pardon. Alors Nathalie Solence, bonjour Nathalie.
Et bonjour.
Voilà. Claude Guen, bonjour Claude. Ah, c'est moi.
Alain bonjour Calais, Claude.
Bonjour Alain. Bonjour Alain. Christiane Belair, bonjour Christiane.
Bonjour.
Alors tu nous diras pourquoi tu es là.
Tout à fait.
Voilà, enfin, je sais que, en tout cas je peux annoncer que tu sors un disque. Voilà. Et puis Isabelle, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Voilà. Et alors pourquoi tu es là Isabelle en fait?
Alors nous parce qu'on a un nouveau lieu qui ouvre et qui va faire pas mal de chansons à l'avenir et qui est l'ancienne anecdote qui a trouvé de nouveaux murs.
Et un nouveau nom.
Et un nouveau nom, là où libre.
La jeunesse. Ouais. Et nous parlerons aussi de la librairie Publico, hein, où il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, si le téléphone du studio c'est 01 43 71 89 40, il vaut mieux appeler pendant les morceaux de musique, parce que techniquement...
Oh, ils peuvent appeler en dehors, mais on répondra pas.
Ah bon? On est poli quand même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ben, c'est l'émission Faites-nous des chansons, c'est la chanson d'Anne Sylvestre, bien sûr. C'est une émission créée par Marlène Bouvier, qui est animée par Pascal Loquin, Nathalie Solence, Daniel Delgado, Laurent Garibian et Claude Guen, suivant les dates, et sur le jeudi, donc, le jeudi. Voilà, nous sommes le jeudi 4 septembre, et nous avons fait le 3 juillet un petit bonjour à Christian Stalla, pour annoncer son exposition à couleur d'orange et puis son exposition à 7 aussi. Voilà, et on passait comme deuxième indicatif à l'émission. C'est une chanson où il raconte tout ce qu'il peut sur une chanson. Voilà, et aujourd'hui, on propose une forme de deuxième indicatif, on en aura peut-être deux de suite d'ailleurs. C'est une chanson de Francesca Solville. Voilà, c'est un titre qui a été fait par le Loup du Faubourg, Catherine May, Atlani et Marie-Pierre de Porta, qu'on embrasse, qui ne sont plus là, mais qu'on embrasse fort. Et c'est sorti du disque On ne sera jamais vieux. C'est...
Alors, si je puis me permettre, oui. Elle n'est pas de Francesca, la chanson.
Non, c'est elle qui chante. C'est celle de Bernard Joyet. Non, attends. Celle de la première, la chanson de Nicolas.
C'est Christian Pacou.
C'est de Christian Pacou. Eh bien, on va commencer par cette chanson en forme de deuxième indicatif.
Mmh.
Une chanson, ça n'existe pas. Nicolas, ça n'existe pas. Ça fleure, ça sent papille, ça s'habille en matin bleu. Ça pleure aux joues des filles dans les fontaines du bord des yeux. Ça claque au matin noir et ça fait douter les soldats.